Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 3, scène 11. Anatole Kouraguine avait été renvoyé de Pétersbourg par son père parce qu'il dépensait une vingtaine de mille roubles par an, sans compter une somme égale de dettes, dont le paiement lui était incessamment réclamé par ses créanciers. Le père annonça à son fils qu'il les paierait pour la dernière fois à condition qu'il irait vivre à Moscou, où il lui avait obtenu une place d'aide de camp auprès du général-gouverneur, et qu'il se déciderait enfin à épouser une riche héritière, la princesse Marie, par exemple, ou Julie Karaguine. Anatole accepta, se rendit à Moscou et s'arrêta chez Pierre. Celui-ci le reçut d'abord à contre-cœur, mais il s'habitua bientôt à lui, partagea parfois ses orgies et lui donna même de l'argent sans en exiger le moindre reçu. Chin-Chin avait dit vrai. Anatole tournait la tête à toutes les demoiselles, grâce à l'indifférence qu'il leur témoignait et à la préférence qu'il affichait pour les bohémiennes ou pour les actrices, pour Mademoiselle Georges surtout, avec laquelle on le disait en relation très intime. Il ne manquait aucun souper, pas plus ceux de Danilov que ceux des autres viveurs de Moscou, buvait sec, mettait ses compagnons sous la table et se montrait à toutes les soirées, à tous les bals, où il faisait ostensiblement la cour à plusieurs dames du grand monde avec lesquels il était, plus ou moins, en commerce de galanterie. Quant à faire un choix, il n'y songeait nullement. Par l'excellente raison ignorée de tous, sauf de quelques intimes, qu'il était déjà marié. Un propriétaire polonais, chez qui il avait été en garnison 2 ans auparavant, l'avait forcé à épouser sa fille. Il abandonna sa femme peu de temps après et acheta à son beau-père, moyennant une certaine somme qu'il s'engagea à lui envoyer, le droit de continuer sa vie de garçon et de passer pour célibataire. Toujours satisfait de sa situation, de lui-même et des autres, il n'admettait pas qu'il eût pu mener une autre existence, et il n'avait, pensait-il, que des peccadilles à se reprocher. Selon lui, la Providence, qui avait donné au canard la faculté de nager, lui avait donné, à lui, Anatole Kouraguine, celle de posséder 30 000 roubles de revenus et d'occuper partout et toujours le premier rang. Cette conviction était si fermement enracinée dans son esprit qu'elle s'imposait par cela même à son entourage. On lui cédait le pas en tout et pour tout, et on lui prêtait de l'argent qu'il trouvait tout simple de recevoir et de ne jamais rembourser. Joueur, il ne l'était pas. Le gain le tentait peu. Dépourvu de tout amour-propre, il était complètement indifférent à l'opinion qu'on pouvait avoir de lui. Sans l'ombre d'ambition, il faisait le désespoir de son père par ses incartades continuelles qui compromettaient son avenir et par ses railleries incessantes à l'endroit des dignités et des honneurs. Il n'était non plus avare, car il ne refusait jamais de rendre un service. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était le plaisir et les femmes. Ne voyant dans ce goût rien de répréhensible ou de vil, incapable, aussi bien pour lui-même que pour autrui, de calculer les conséquences de ses actes et de ses passions, il se considérait, en somme, comme un homme irréprochable, méprisait franchement les coquins et portait haut la tête avec une conscience tranquille. La plupart des viveurs, Madeleine homme et Madeleine femme, ont une assurance secrète et naïve de leur innocence, fondée sur l'espoir du pardon. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il s'est beaucoup amusé. Dologoff, revenu depuis peu à Moscou, d'où il avait été exilé, menait, après ses aventures en Perse, un train de vie des plus fastueux, jouait gros jeux et se livrait à tous les plaisirs. Il ne lui en fallut pas davantage pour se rapprocher de son ancien compagnon de folie et pour profiter de ce rapprochement dans des vues toutes personnelles. Anatole appréciait son intelligence et sa bravoure et l'aimait sincèrement, tandis que Dologoff avait besoin de lui et de ses relations pour attirer dans ses filets des jeunes gens riches, ce qu'il se gardait bien, du reste, de lui laisser soupçonner. À part ces motifs d'un ordre tout spécial, il trouvait une jouissance, une habitude, presque une nécessité, à diriger ainsi à sa fantaisie une volonté étrangère. Natacha produisit sur Anatole une impression violente. En soupant après le spectacle, il détailla une à une, en connaissance et mérite, toutes les beautés de ses bras, de ses épaules, de ses pieds, de sa chevelure, et annonça son intention arrêtée de lui faire une cour assidue, sans se donner la peine de penser à ce qui pourrait en résulter pour eux deux. Ces vulgaires considérations n'entraient pas dans ses habitudes.
« Elle est très jolie, mon ami, mais elle n'est pas pour nous, »
lui dit Delogoff.
« Je vais dire à ma sœur qu'elle l'invite à dîner, »
répliqua Anatole.
« Qu'en penses-tu ? Attends plutôt qu'elle soit mariée. Tu sais bien que j'adore les petites filles. Elles perdent la tête tout de suite. Prends garde, tu as déjà été attrapé par une petite fille. »
répondit Delogoff en faisant allusion à son mariage.
C'est pour cela que pareille chose ne m'arrivera pas une seconde fois.
Repartit Anatole en riant de bon cœur.